depuis plus de 11 ans maintenant, a entrepris, entre autres, le parrainage d'enfants tibétains qui sont venus se réfugier en Inde. Et le film qu'on devait voir relatait comment ils fuient avec rien du tout à travers l'Himalaya, donc des sommets à plus de 4500, des fois des cols à 5002 sur les glaciers, avec tous les risques que cela comporte, étant en plus la police chinoise surveillant les frontières et puis n'hésitant pas à tirer sur ceux qui fuient. Donc on aurait dû voir ça. Et ces enfants, quand ils arrivent en Inde, il y a un organisme qui les reçoit, qui les identifie, de quelle famille ils sont, pourquoi ils sont venus en Inde, quel âge ils ont, est-ce qu'ils ont déjà une connaissance du tibétain, de quelle langue. Et en fonction de ça, le service central, qui est basé à Dharamsala, le centre le lieu du gouvernement tibétain en exil en Inde, les répartit dans différents lieux pour être pris en charge et éduqués. Et l'action d'Objectif Tibet, c'est de parrainer des enfants d'une école qui est dans le nord de l'Inde, qui n'est pas Dharamsala, mais quand même dans les contreforts de l'Himalaya. Et l'école s'appelle la Tibetan Home Foundation, elle est à Mussoorie. C'est à 2000 mètres d'altitude. Et cette école, cette fondation reçoit, héberge et reçoit, actuellement elle avait 2400 enfants. Et par notre association ici, notre action, on a 150 personnes qui font le parrainage tous les mois, qui prennent en charge un enfant. Vous les voyez donc sur ces images, vous avez vu la photo du groupe des enfants parrainés. Les parrains se sont engagés à verser 25 euros par mois pour qu'ils soient logés, habillés, nourris et puis éduqués. Alors ça s'est levé du matin, vous avez vu, c'est 5h30, ils sont sortis en tenue de sport et ils ont brossé les dents, après ils rentrent dans la chambre, ils font leur lit, ça doit être 6h du matin. Ça c'est les filles. Elles s'aident pour faire des lits. Après ils nettoient la pièce. Avec le balai que vous voyez, puis quand c'est pas assez propre, hein, il y en a avec les doigts. Aussitôt après, ils filent dehors, ils font de la gym, gymnastique matinale, pour se mettre en forme. Vous voyez, il y a un encadrement pour que tout de suite ils se réinsèrent dans une vie sociale. Voilà, c'est la gym. Après, ils mettent la tenue de l'école. Les garçons, ils ont cette chemise, cravate et le petit pull. C'est des prières qui sont menées par des plus grands. Après, petit déjeuner, ça doit être 7h du matin. Alors, la vaisselle du matin. Voilà, ça se passe tout dehors, en riant avec leur belle tenue. Chacun à l'ouvrage. Alors, on a fait un film, en fait, qui est sur un DVD, et on voit tout ça, c'est plus vivant, c'est avec des explications qui suivent. Là, elle fait réviser, la plus grande fait réviser aux plus petits les cours. Là, c'est la grande réunion. Avant de rentrer en classe, c'est dans la cour, et chaque classe est alignée. Là, c'est une prière. Et ils chantent là. Alors il y a les nouvelles du jour concernant l'école ou des événements. Donc il y en a un qui est chargé de lire ou une pensée du jour. Ça c'est notre équipe d'Objectif Tibet quand on avait rendu visite à l'école. Il y avait le directeur et le principal. Ça, des élèves en études. travail scolaire. Alors là, elle apprend le tibétain. Les principaux cours vont être donnés en anglais. Donc, ils vont apprendre l'anglais et le tibétain, donc, pour ne pas perdre leur identité culturelle. Mais tous les autres cours, maths, l'histoire, chimie, enfin, tous les autres vont être donnés en anglais. Et puis après, ben, c'est dans la cour, ils font leur. Ils ont sûrement un. Voilà, ils ont même toute une salle de classe avec ordinateur maintenant pour se préparer à la vie, à s'insérer dans la vie. Là, c'est les plus petits, il y a une petite classe. Là, ce sont des enfants du personnel de l'école. Hein. Il n'y a pas de petits. Les plus petits qui arrivent du Tibet ont quand même 8 ans. Et à 8 ans, on voit dans quelles conditions ils ont traversé les glaciers, c'est terrible. Donc là, ils nous chantent une chanson qui est. Frère Jacques, voilà, ils connaissent ça. Pour nous, oui. Voyez les petits déjà apprenant à écrire. Donc ils sont studieux. Les premiers, là, ils apprennent voyez, les caractères. Ils font des montages de caractères en anglais, de phrases. Alors ils se mettent à plusieurs, puis comme ça, il y a une émulation. C'est pas chacun dans son coin, c'est. Des études, activités, réflexions de groupe. Là, c'est une classe. Ce sont des classes de couture pour ceux qui ne veulent pas suivre un cursus normal jusqu'au niveau bac, au point de vue culture générale. Et donc, il y a une section couture qui, là, fait les uniformes des enfants, garçons et filles. Puis là, c'est une autre section, c'est les arts plastiques, la peinture. Il y a une clinique dentaire qui a été bien aménagée quand on y était par un Français qui, depuis quelques années, a suivi ça, puis qui a réussi à amener du matériel dentaire de bonne qualité et à former quelqu'un. Sinon, on n'a pas vu, c'était un dispensaire, parce qu'avec 2400 enfants, il y a tous les jours des enfants malades de quelque chose ou d'autre. Donc, il y a sur place quelques lits pour les héberger avec des infirmières. Voilà, ça fait partie des enfants que des gens ici parrainent. Et ils sont logés dans des dortoirs derrière ces balcons. Voilà, tout le groupe. La plupart de ces enfants, trois quarts, c'est des enfants qui ont dû fuir du Tibet. Hein. Un autre quart vient de familles qui sont peut-être réfugiées en Inde, mais dans le sud, assez loin. Alors évidemment, ceux du Tibet, ils ne vont pas voir leurs parents, ils ne vont même pas leur écrire, parce qu'il y a un risque si les Chinois apprennent que des enfants sont partis en Inde, il y aura des répressions. Donc ils ne les reverront pas et puis ils ne pourront pas leur écrire. Donc c'est le responsable parrainage avec le président d'Objectif Tibet et puis le directeur. Ça, c'est une famille. Alors ça, c'est la préparation des petits déjeuners. Ah oui, ça retourne, ben, vous y avez vu. C'est. Ah oui, donc. Voilà, rapide ces cours. Et on a réalisé un DVD beaucoup plus complet qui permet de bien rentrer dans l'esprit de tout ce qui est fait. En tous les cas, nous, l'association. On est vraiment heureux depuis, ça fait maintenant 11 ans qu'on a pris contact avec cette fondation. On est heureux des résultats obtenus parce que les enfants sont bien pris en charge. Il y a des structures qui fonctionnent bien. Il y a le secrétaire général avec qui on correspond tout le temps, qui nous donne des informations. Les gens qui parrainent, en fait, c'est comme s'ils adoptaient un enfant, mais au lieu de dire je l'adopte, je le fais venir chez moi. Il va être éduqué, il va rester dans sa culture, dans la culture tibétaine. Il va être bien éduqué, il aura un bon niveau. Ses enfants qui ont un extrêmement bon niveau, puis d'intelligence vive. Parce qu'il y a une émulation de groupe qui est faite. Il n'y a pas de compétition, c'est de l'émulation. Et donc, quand les gens ils parrainent un enfant, il y a une relation qui s'établit. C'est-à-dire que nous, on a des dossiers là-bas. Et les gens, ils disent, je choisis un garçon, je choisis une fille, suivant leur désir. On peut choisir un enfant dont les parents sont restés au Tibet bien des gens ils nous disent ben, on choisit. Mais après, vous allez, les gens ils reçoivent les notes de l'enfant. L'école, tous les 3 mois, établit un rapport d'activité de l'ensemble des classes. C'est-à-dire que nous, on vous les transmet, c'est notre mission de lien de l'association. On vous transmet, on fait traduire les rapports d'activité trimestrielle de l'ensemble de l'école. On les traduit, on les rediffuse à chacun. Comme ça, vous vivez un petit peu la vie de l'école, les moments des vacances, le travail, les résultats. Et puis en même temps, l'enfant, ben, il a un nom, vous lui envoyez votre photo, il vous envoie sa photo, puis après, il vous écrit. À la fin de l'année, vous recevez, les gens reçoivent les bulletins scolaires. Alors vous êtes en droit de lui dire c'est bien, c'est pas bien, je suis fier de toi, vous pouvez discuter. Et les bulletins scolaires. Et puis vers Noël, comme ils savent que c'est une fête Noël importante pour nous ici, pas pour eux, mais là-bas ils le savent, donc ils préparent des cartes qu'ils font eux-mêmes et qu'ils envoient un petit mot. Donc il y a un échange, un lien qui se fait. Ce qui fait que avec ces liens, il y a des gens qui voudraient rencontrer leur filleul. Et c'était assez bien pour nous parce que quand on est allé là-bas, on en a discuté avec la direction. Ils ont un espace, ils ont, on va dire, une lodge avec quelques possibilités de loger 7-8 personnes avec de quoi les nourrir. Et ils sont tout heureux en fait. Maintenant, il y a des gens qui avaient envie d'aller voir leurs enfants. Donc, ils vont les voir, ils peuvent être hébergés un ou deux jours là-bas. Et nous, on a organisé l'association, un projet avec une agence de voyage sur place. Les gens prennent l'avion, ils arrivent à Delhi et on est capable, si les gens veulent, parce que beaucoup n'osent pas aller en Inde, hein. L'Inde c'est plus ou moins facile, comme ça. Mais donc cette agence va les prendre en charge à l'aéroport, les emmener dans un hôtel. Et après, on a prévu un périple de 15 jours, à la fois pour visiter des jolis sites comme Agra, le Taj Mahal, puis après sur le circuit qui mène vers l'école, on a prévu qu'ils s'arrêtent le long du Gange à Haridwar, dans un lieu, une ville sainte, où là on voit les traditions des hindous. Après ils peuvent aller à Rishikesh, le lieu des yogis, après voir des centres de camps tibétains avec des temples tibétains des différentes traditions. Puis après hop, ils montent à 2000 mètres à l'école, ils peuvent passer 1, 2 ou 3 jours. Et puis les gens là-bas à l'école sont extrêmement heureux de recevoir ces donateurs, ces sponsors, ces parrains. Et après, ça fait des relations encore plus fortes. Donc quand ils reviennent, ils en parlent autour d'eux et ça donne envie aux parrains aussi d'envisager d'y aller. Voilà, c'est une manière, en apportant de l'aide, un jour de permettre à certains de leur faciliter la découverte aussi de l'Inde, qui est un pays quand même assez particulier à découvrir. Alors, je sais pas ce que... Voilà, donc c'est la photo de groupe de tous les enfants. Enfin, ils n'étaient pas tous, il y a 2 écoles, une ici et une plus bas. Et vous reconnaissez certains en rouge et en blanc, là. Donc des Occidentaux qui nous occuperont de cette option parrainage. Voilà, je vais bien répondre à vos questions. Alors en fait, nous, l'école les prend en charge jusqu'à un niveau baccalauréat à peu près, 18 ans. Et les plus doués, l'école, selon ses moyens, ses fonds, parce qu'en fait, tout le fonctionnement de cette fondation, c'est uniquement par des dons. Hein. C'est uniquement par des dons. Et pour les plus doués, ceux qui ont un bon niveau, elle va s'arranger de leur permettre de faire des études supérieures. Donc elle va les prendre en charge. Parce que il faut savoir qu'en Inde, c'est un peu le système anglo-saxon, il faut payer les études. Même si vous voulez faire infirmière, ici vous pouvez faire des études d'infirmière. Et là, on a eu le cas de quelques personnes l'enfant voulait devenir infirmière, et ça coûte très cher en Inde. C'est vraiment tout est payant dès qu'il y a une formation. Donc les meilleurs élèves, l'école va s'en occuper, et c'est vrai que c'est un problème pour les autres, et il y en a après leur culture générale, ils sont excellents, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de difficultés à s'insérer, d'autant plus qu'en Inde, jusqu'à présent, peut-être ces dernières années, ça a changé, mais ils avaient du mal à s'insérer. Mais je dois ajouter quand même que dans leurs cours, ils apprennent l'anglais. Tout le cursus est fait en anglais. le Tibétain pour connaître leur culture et leur histoire, mais ils apprennent, puisqu'ils sont dans un pays l'Inde, l'hindi. Donc ces gamins que vous avez vus de 8 ans jusqu'à 18, ils apprennent déjà à maîtriser trois langues. L'hindi pour pouvoir aller dans la rue, commercer. Mais au point de vue travail, ils ont beaucoup de mal, juste avec la culture générale, à s'insérer. Et c'est un problème. Oui.
C'est en Inde, ça.
C'est en Inde, oui. Oh, c'est pas une coupure avec la famille. C'est des fois la famille qui les a amenés. Nous, on a vu quand on y allait avec mon épouse la première fois, il y a une maman, elle avait amené sa gamine, elle était repartie, elle était restée 2 jours, puis elle était repartie pour pas qu'on sache qu'elle était partie du Tibet parce qu'ils sont surveillés par les Chinois. Parce que les Chinois n'acceptent pas que... Il y a des tas de villages, des tas de lieux où les Tibétains, ils ne sont pas éduqués. En tous les cas.
Vous n'avez pas le droit d'interdire au Tibet même.
Ah non. Non.
Il y a le contrôle de Chinois.
Vous savez, s'ils apprennent, si on intervient, les familles, elles ont plus d'ennuis que si... Parce qu'on a eu le cas. On a eu le cas de parents qui parrainaient des enfants. Et puis les Chinois se sont aperçus que dans tel village, il y a eu des dénonciations que leur enfant n'était plus là. Donc il y a eu des pressions. Les gamins, ils ont dû quitter l'école. Et nous, on a proposé à l'école de faire des démarches, des pétitions et d'agir. Et l'école nous a dit, s'il vous plaît, faites rien, parce que ça risque d'être plus grave pour la famille, compte tenu de tout ce qu'eux, ils reçoivent, jusqu'à ce que la frontière se ferme l'année dernière à la suite des événements avant les Jeux Olympiques. Il y avait à peu près 200 enfants, 1500 à 2000 enfants qui, chaque année, étaient amenés en Inde pour être éduqués. Donc l'école, elle en prenait chaque année 200 de plus. Et ça, c'est tout en douce. Parce que les Chinois, D'ailleurs, quelqu'un qui est venu étudier en Inde, s'ils apprennent qu'il est venu apprendre l'anglais en Inde, après, quand ils repassent souvent, ils ont envie de retourner chez eux au Tibet. Mais souvent, alors les Chinois vont s'en ranger pour qu'ils n'aient pas de boulot. Parce qu'ils ne vont pas supporter, ils ne vont pas accepter qu'ils soient allés du côté de... qu'ils aient rencontré des Occidentaux. Il y a une pression énorme de Chinois. Donc il n'y a pas d'école. Dans la plupart des villages, il n'y a pas d'école. Nous, entre autres, on soutient une école au Tibet parce que c'est un Tibet d'un village, un Tibétain qui habite en Allemagne. Puis il a recréé une école, alors ça les Chinois ils laissent partiellement faire de recréer des écoles. Mais c'est des petites actions ponctuelles dans certains coins. Je sais pas si j'ai été assez, peut-être assez clair. Oui, c'est un problème politique. C'est uniquement politique parce qu'il y aurait des... Ben, j'aurais dû vous donner. C'est tout à fait ça.
C'est ça,
ouais. Non, mais c'est bon, mais entre nous, c'est le...
C'est uniquement politique, oui.
C'est uniquement le problème politique, malheureusement, quand on a tous entendu les situations,
ouais.
Le Tibet est complètement fermé, et à chaque fois, de toute façon, qu'une association, ce que je leur disais à mon premier, essaie de faire quelque chose, on est pieds et mains liés par le gouvernement chinois, malheureusement. Et c'est vrai que des opérations très très simples, c'est ce que je leur disais par exemple, moi j'essaye de faire donner et amener au Tibet, donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant, des vieux vêtements de tous les moniteurs de ski Savoie, Haute-Savoie. Bon, même si... c'est même pas la peine, parce que je n'arrive pas à avoir les contacts, je n'arrive à rien faire, et c'est tellement fermé, verrouillé, c'est que je ne fais même plus de vol sur la Chine. Donc, il faut voir jusqu'où ça va. La Chine est vraiment un pays qui était très fermé. Bon, ça se rouvre, il y a des moments. Bon, après, c'est très politique, malheureusement. Alors, ça va s'ouvrir un moment, puis ça va se refermer. Ben, c'est un petit peu partout dans le monde comme ça, malheureusement. Et dès que c'est vrai qu'on essaye de faire quelque chose, ben, après, c'est verrouillé. Donc, ces enfants, c'est comme pour tout le monde. Quand on entend les pays africains, tous ces gens qui essayent de partir pour venir vers l'Europe, pour essayer de sauver leur vie, c'est un peu ça. Sauver la vie, c'est pas ne serait-ce qu'avoir un travail, c'est aussi avoir une éducation et avoir autre chose. Ben, c'est pareil pour eux. Ils essayent de sauver un enfant, voire deux, parce qu'au Tibet, ils sont sous la coupe du chinois, donc souvent, ils n'ont pas le droit d'avoir plusieurs enfants. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et souvent, c'est un don d'eux-mêmes. Ils donnent leur enfant pour essayer de, peut-être aussi de sauver tout un village. Hein. Je pense que c'est un petit peu partout pareil. C'est vrai que c'est dur à entendre, mais bon, ben, il faut le savoir. Alors, c'est vrai, moi je ne savais pas par contre que votre école était en Inde. Moi je pensais qu'elle était au Népal, je ne savais pas qu'elle était en Inde. Et c'est vrai que ben, quand on sait, quand on connaît la géographie du pays, quand on connaît, c'est incroyable quoi, ce qu'ils arrivent à faire, parce que c'est des petits qui arrivent. Et c'est pour ça qu'on voyait une photo tout à l'heure, mais j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus vieux que les autres, celui qui était sur un ordinateur. C'est pour ça que je me demandais.
C'est plus grand, ça. C'est
je pensais qu'il avait 25 ans et non. Beaucoup plus, et qu'ils étaient presque des professeurs. Non et, ouais, il est,
Non, c'est les plus grands.
Ce sont les plus grands.
Alors, dans les arrivants, dans le film, on aurait pu voir qu'il y a des nouveaux arrivants qui sont âgés, qui sont plus âgés. Et là, dans chaque école, dans cette fondation, entre autres, il y a des classes de mise à niveau. C'est-à-dire que tous les nouveaux, qu'il y ait des tout petits, des moyens ou des grands, ils sont ensemble pour réapprendre le béaba. Ils vérifient d'abord qu'elles sont, en principe, ils sont tous illettrés quand ils débarquent. Donc, ils savent juste parler. Donc, ils vont les mettre à niveau avec les bases du tibétain, puis après assez rapidement l'anglais. Et puis, c'est étonnant comme ils vont faire des progrès. Nous, on est vraiment impressionnés des progrès qu'ils font en 3 ans, ceux qui sont arrivés illettrés, mais après ils maîtrisent. D'ailleurs, ceux qui prennent des enfants, là, qui ont débarqué du Tibet et qui les parrainent, au début, les enfants, ils ne parlent pas, ils vont juste dire quelques mots qu'un plus grand va écrire aux parrains. Et puis, peu d'années après, ben, l'enfant, il va vous écrire en anglais. C'est assez étonnant. Ils ont une vivacité d'esprit. Donc, nous, ça nous réjouit parce qu'on voit que c'est des enfants. S'ils étaient restés au Tibet, ben ils n'avaient pas de place, ni pour travailler, ni rien du tout, illettrés. Et puis on s'aperçoit après que c'est en leur donnant cette chance, ils ont des intelligences vives et développées qui sont vraiment étonnantes. Ils ont un esprit vif qui nous épate tout le temps.
C'est ce qu'on appelle la rage de vivre. Hein. Souvent, on s'en sort bien mieux que ceux qui en ont pâti avant, étant jeunes. Et ben, ils s'en sortent, ils en veulent, hein. Ils veulent y arriver. Hein.
Et dans cette rage de vivre, nous, on aimerait bien que beaucoup, beaucoup de gens d'ici, des jeunes, aillent voir comment les enfants là-bas étudient. Parce que y a pas, quand ils sont en classe, il n'y a pas à faire la police. Tout le monde s'applique à essayer de son mieux. Ça nous étonne parce que ce n'est plus comme ça ici. Et on s'est dit, il y a des valeurs qui existent qu'il faudrait qu'on redécouvre. Le goût d'apprendre, le goût de découvrir, le goût de... Mais ici, je pense qu'il y a un grand aspect, c'est que chez eux, il n'y a pas la compétition individualiste dès le départ. Si le petit ne comprend pas la plus grande, elle va s'en occuper. Ils se soutiennent. Et les petits qui ont été abandonnés, on va dire qui sont arrivés tout seuls et qui pleurent, au début leur maman n'est pas là, très vite, il y a des plus grands qui vont être tout proches. C'est-à-dire sur le plan affectif, ça va s'arranger un peu. D'ailleurs, ça me permet de compléter, c'est que les plus petits... au lieu qu'ils soient mis dans des dortoirs, ils sont réunis sous forme de maison. Il y a 6 garçons, 6 filles dans une maison. C'est des petites unités qui sont un peu en contrebas de l'école, dans les bois. Et ils ont une maman, c'est-à-dire que c'est une tibétaine et un papa, qui sont comme si c'était leur famille. Et les gamins, à la sortie de la classe, ils rentrent à la maison, ils posent le cartable, ils vont faire leurs devoirs. Mais après, ils vont préparer la cuisine ensemble. C'est la maman qui va dire, allez, on fait ça ce soir. Alors, ils vont préparer, chacun va préparer. Les autres vont faire la vaisselle. Et puis après, il y a les filles qui sont dans leur petite chambre de... Elles sont par 2, 3. Enfin, des petites chambres. C'est la maman qui est responsable de ces jeunes jusqu'à ce qu'ils soient un peu plus grands, en capacité de pouvoir être en dortoir. Donc, il y a pas mal de petites maisons qui ont été financées au tout début par les Autrichiens et des structures associatives mais importantes d'Autriche qui ont permis ça. Et vous voyez, sur le plan d'intégration, sur le plan affectif, c'est pas leur maman, ils le savent, Mais quand ils ont besoin de s'épancher un peu ou de dire ce qu'ils ressentent, ben, c'est quelqu'un qui est là à l'écoute. Nous, on a beaucoup de satisfaction de voir comment ça se passe comme ça. Ben justement pas, ils ne sont pas scolarisés. Et maintenant, à la salle, donc, s'ils vont à l'école, ils vont apprendre que le chinois. Et ils vont apprendre que le... ça sera que du chinois, ils ne connaîtront rien. Ben bien. Alors, il y a mon épouse qui pourrait...
Oui. Alors, au Tibet, ils sont les Tibétains sont scolarisés en chinois. C'est ce que cherchent d'ailleurs les Chinois. Ils veulent... faire disparaître le peuple tibétain, donc ils veulent que toute la langue soit en chinois. Alors, les Tibétains, pourquoi ils envoient leurs enfants en Inde, dans des écoles en Inde? C'est pour justement qu'ils gardent leur culture tibétaine et qu'ils gardent la parole, comment on dit?
La langue.
La langue tibétaine. Donc, ils vont à l'école tibétaine.
Alors, avant, le Tibet, c'est un pays, avant 59, c'est un pays qui est grand comme 5 fois la France, grand comme l'Europe, et il y avait 6 millions d'habitants, parce qu'il y avait beaucoup de nomades. Donc ils avaient quelques enfants, ils n'en avaient pas énormément parce que les conditions de vie sont vraiment difficiles. Les Français demandent quelle idée d'aller vivre là-haut parce que c'est difficile comme tout, à 4000 mètres le plateau. Et avec la politique chinoise d'un enfant, ils ont commencé à l'appliquer aux Tibétains. C'est-à-dire que dès que les femmes accouchaient, sous prétexte de soins, ils les stérilisaient. Toutes ces dernières années, ça a été une période de stérilisation des femmes. Donc c'est difficile. Alors les seuls qui s'en sortent un peu, qui ont peut-être 2-3 enfants, c'est les nomades. Ceux qui sont encore nomades, parce que maintenant, peu à peu, les Chinois, les parcs, ils leur limitent l'espace. Et si l'espace des yaks enfin, est limité, il manque de nourriture, donc ils ne peuvent pas les garder. Enfin voilà, peu à peu, on diminue. Comme ça, dans les villes, les Chinois peuvent mieux contrôler la population tibétaine, le nombre d'enfants.
Et dans le cadre de cette école, est-ce que vous avez suffisamment de recul pour connaître un petit peu, pour savoir que deviennent ces jeunes une fois adultes? Est-ce qu'ils s'intègrent, est-ce qu'ils restent intégrés à l'Inde ou est-ce qu'ils ont envie de faire quelque chose pour leur pays d'origine?
Oui.
D'être actifs au Tibet?
En fait, quand ils viennent, ils sont tous... identifié, identifié, et le Dalai Lama les reçoit tous. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y en a un certain nombre, il va y avoir un échange et ils vont être en présence du Dalai Lama. C'est leur rêve d'ailleurs des Tibétains. Vous savez que pour les Tibétains, ils sont prêts à prendre des risques pour venir le rencontrer. Et dans son discours, qu'on aurait pu entendre là, il dit bien qu'ils vont recevoir une éducation, mais c'est pour refaire un Tibet. Dès que l'occasion propice se présentera, il faut retourner au Tibet parce que le Tibet sans Tibétain, il disparaît. Donc il leur conseille d'être éduqués, mais de retourner au Tibet. Alors il y en a un certain nombre après qui retournent au Tibet pour s'insérer, mais surtout depuis l'année dernière, ils ont du mal. Parce que presque tous les commerces, les hôtels à Lhasa, au Tibet, sont tenus par les Chinois. Les Chinois, ils arrivent, ils ont des aides financières que les Tibétains n'ont pas. Et du coup, ils tiennent toute l'économie. Les Chinois tiennent toute l'économie. Et après, ils embauchent que les Chinois, puisqu'il y a de plus en plus de colons chinois. C'est donc difficile de se réinsérer au Tibet pour eux. Et en Inde, c'est aussi difficile parce qu'il faudrait qu'ils reçoivent des formations. Alors, depuis 4 ans, le Dalai Lama a suggéré, puisqu'il était difficile d'étudier en Inde dans les universités indiennes, ça coûte cher, et puis, donc il a suggéré de créer une université où les Tibétains et d'autres pourraient y aller, mais financée par les les Tibétains ou par des dons, ou les Tibétains pourraient intégrer puis avoir des formations techniques et des formations d'informatique sans que ça coûte. Donc c'est en train de se faire et nous, c'était l'intention. On a le dossier déjà pour participer au financement de cette université à Bangalore pour leur permettre d'acquérir un savoir-faire, un métier que l'école ne leur propose pas.
Une école comme ça, ça représente quel pourcentage de la population enfantine, disons, des enfants. Cette possibilité d'école, vous êtes les
cette
seuls.
Fondation, il y a.
Vous êtes les seuls implantés là où vous êtes, cette école.
En fait, cette fondation, cette école, c'est la première qui a existé pour que les enfants des réfugiés qui étaient dispersés, qui étaient démunis de tout quand ils sont arrivés en Inde. C'était pour les regrouper, pour les prendre en charge, les nourrir et puis leur donner une éducation. Donc c'était cette première école qui a été connue. Après, il y a eu des villages d'enfants tibétains dont certains ont entendu parler, ça s'appelle les TCV. Tibetan Village, TCV, Tibetan Children Village. Il y en a pas mal, un peu partout. Cette école-là, là, où nous on a les 155 enfants, elle en accueille 2400. Donc, il y a des écoles comme ça un peu partout dans l'Inde, partout où il y a des réfugiés.
Excusez-moi, je suis arrivé un peu tardivement. Je m'excuse, je suis arrivé un peu tardivement, mais je suis interpellé par votre intervention. Je voudrais savoir, cette école, c'est bien en Inde, c'est pas au Tibet.
Cette école-là, elle est en Inde.
Oui. En Inde. Alors, quel est votre positionnement par rapport au pouvoir chinois, étant donné qu'ils savent un petit peu vos actions pour soutenir les Tibétains à travers ce qui traverse l'oppression chinoise. Et quelle est votre position par rapport à l'État chinois? Est-ce que vous avez la liberté de pouvoir passer par la Chine, arriver au Tibet pour faire des investigations, ou vous êtes des personas non grata en Chine?
Vous parlez à titre personnel?
Par rapport à votre association?
Ah, nous, on ne fait rien au Tibet.
Ah, vous faites rien?
C'était un choix parce que, par contre, on participe. Vous pourrez voir sur notre stand, il y a une association, c'est un Tibétain qui vit en Allemagne, qui lui vient de certains lieux. Et il a vu qu'ils étaient démunis, que les enfants étaient paniqués, donc il s'est engagé à créer une école. Donc, nous, indirectement, on a fait des actions, on a un peu de fonds, on aide à ce que ça marche. Donc il y a un bon résultat et les gens sont très contents au Tibet. Mais nous directement, on ne s'engage rien au Tibet.
D'accord. Donc je pense quand même, pour les Chinois, comme enfin, tout le monde sait l'objectif chinois, c'est de coloniser le Tibet, donc faire disparaître la culture, l'éducation tibétaine et autres. Donc vous êtes des amis des Tibétains, pour la culture tibétaine, pour pérenniser cette culture qui est sous oppression.
Tout à fait.
Donc, à mon avis, donc, vous n'êtes pas des bienvenus en Chine, quoi.
Si oh, moi, je suis déjà allé au Tibet deux fois. Ah, je suis allé en Chine, je me suis bien baladé en Chine. Je trouvais ça très intéressant. Vous savez, quand vous avez affaire à quelqu'un, au lieu d'avoir il vaut mieux aller voir sur place pour se rendre compte. Ça m'a bien éclairé et personnellement, je ne demanderai que d'y retourner avec ma connaissance. J'y vais mais je sais tout ce qui se passe. J'ai l'œil un peu ouvert. Je suis plus attentif. J'ai fait des films, hein, des reportages qui peuvent témoigner. D'ailleurs, sur cet aspect-là qu'on n'a pas abordé ici, parce que dans ce salon, nous, on a abordé Club Projet, que l'aspect solidarité. Les actions que l'on mène solidaires, comme on en mène dans le sud de l'Inde, on a aidé à financer pour des grosses populations qui sont dans le sud de l'Inde. Ils sont très nombreux, donc le sud c'est bien plus difficile à vivre pour les Tibétains parce que c'est pas assez chaud, c'est humide. C'était de la jungle au début qu'ils ont dû défricher. Donc nous on aide avec nos petits moyens, on a aidé à creuser un puits, des pompes, après groupe électrogène pour pomper l'eau pour les cultures. Vous pouvez voir quelques photos là-dessus dans le sud de l'Inde et aussi une école.
Je vous remercie pour votre question parce que j'avais un petit peu des soucis, des doutes par rapport à ça. Savoir un petit peu l'autre côté, qu'est-ce qu'ils en pensent.
Oui. Mais alors pour compléter, donc on a un autre aspect, c'est-à-dire toute l'année dernière, quand il y a eu les soulèvements au mois de mars, avant les Jeux Olympiques, nous, on a contribué à soutenir cette action-là, à sensibiliser l'opinion pour avoir du soutien ici. On a fait des actions ici à Sierre, Tenon, Annemasse, différents lieux. Donc des actions de soutien au point de vue droit de l'homme. Hein? Oui. C'était pas humanitaire comme ici. Et dans cet esprit, justement, il s'est avéré qu'hier soir, on a eu une info d'un moine qui, au Tibet, avait été un résistant. Et de là, il avait été emprisonné il y a 20 ans. Il est emprisonné et il a subi des tortures, des tourments terribles. Et il a écrit en fait, ils l'ont laissé pour mort. Et c'est une association en France qui s'appelle France Liberté, à l'époque de Daniel Mitterrand, qu'il avait fait venir pour le soigner. Et il a été soigné. Mais nous, on l'avait rencontré peu après dans un état encore bien abîmé. Et après, il a écrit son livre L'enfer est sur la terre, l'enfer sur la terre. Et par chance, je viens d'apprendre hier soir qu'il serait de passage à Lyon, et on a réussi à le faire venir, on va le faire venir à Sier ou à côté, là, vendredi prochain, 29 mai. On va voir demain pour la salle, si on le fait ici ou à Sier, mais si vous voulez, vous mettez votre nom sur le stand, on vous informera. Mais c'est vendredi prochain. Il a un livre très fort sur tout ce qui se passe, la répression chinoise.
Je vous remercie pour vos réponses.
Ben merci.
Je reste toujours attentif en fait, à ce que la Chine fait par rapport à ses voisins, tout en gardant un petit peu un esprit un peu ouvert, non partisan. Merci beaucoup.
Merci à vous. Voilà, je crois que on peut clore.
Alors, ben, on va merci. Voilà, donc on va faire une petite pause et vers 17h, il y aura une autre conférence sur une exploitation familiale dans un village du Sénégal.